cette machine, c'est celle qui changera le plus notre vie dans l'avenir.
C'est pour aujourd'hui, pour demain.
Qu'est-ce qui a changé ?
Quatrième numéro de l'été, saison durant laquelle nous nous intéressons chaque samedi aux conséquences de la révolution numérique sur notre quotidien et aux changements à venir. Ce matin, nous nous penchons sur la sexualité pour essayer de comprendre comment les nouvelles technologies peuvent influencer les pratiques de chacun et peut-être de nouvelles formes. Depuis 15 ans, en effet, les sites de rencontres censés nous permettre de trouver un partenaire pour la nuit ou pour la vie se multiplient. Certaines plateformes revendiquent plusieurs centaines de milliers d'inscrits, de quoi donner envie de vivre des expériences, mais pas toujours avec la même personne. Parallèlement, les sites pornographiques surfent sur l'audience, attirant à certaines heures plus d'internautes que les réseaux sociaux. Avec l'arrivée des objets connectés et la réalité virtuelle, les offres pour les adeptes du plaisir solitaire n'ont jamais été aussi présentes, au risque d'isoler toujours plus ceux qui s'y adonnent. Alors, quelles sont les conséquences de cette évolution sur nos comportements, sur notre relation à l'autre, sur notre vie sexuelle, confrontée à la séduction qui passe par un écran ou un clavier, et au mythe de la performance véhiculée par les images pornographiques? C'est ce que nous allons voir jusqu'à 10h avec nos invités. Solène Payet, porte-parole de Gliden, un site de rencontre extra-conjugale. Bonjour Solène.
Bonjour.
Catherine Demangeau, qui est sexothérapeute et que nous avons au téléphone. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Et enfin, Ghislain Faribault, vice-président de la division média de la société Marc Dorcel, producteur de films pornographiques. Bonjour Ghislain.
Bonjour.
Et nous entendrons Morgane Tual, journaliste du quotidien Le Monde, qui est partenaire de l'émission. Allez, c'est l'été, c'est parti pour une heure d'exposition au monde numérique.
France Inter, c'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Didier Siamour.
Et pour commencer, Morgane Tual, qui écrit sur la révolution numérique dans la rubrique Pixel du journal Le Monde, elle a forcément une passion pour les robots, mais pas forcément pour tous les robots.
Alors, vous vous souvenez du très bon coup, le personnage incarné par Jude Law dans AI, intelligence artificielle. Dans ce film de Steven Spielberg, il interprète Gigolo Joe, c'est un gigolo donc, mais pas n'importe lequel, un gigolo robot. Et il est ultra doué, sexy, sensuel, il s'adapte à toutes les personnalités, toutes les envies, et avec lui, aucun risque de panne. Bref, une sex-machine au sens propre. Alors, à en croire certains magazines, ce fantasme ou ce cauchemar au choix pourrait bientôt devenir réalité en 2020, 2040 ou 2050 selon le prophète de votre choix. Et pourtant, le chemin est encore long, très très long avant d'en arriver à Gigolo Joe, si on y arrive un jour. Gardez tout de même en tête que nous n'en sommes qu'à l'ère du vibromasseur et du godemichet et que les plus sophistiqués consistent à s'activer à distance par Bluetooth. Waouh !
Mais la robotique a quand même fait des progrès ces derniers temps, non ?
Oui, effectivement, mais pas suffisamment pour vraiment changer les choses. Aujourd'hui, par exemple, personne ne sait comment réaliser un robot capable de faire un lit tant la tâche est complexe. Alors d'ici à le faire entrer dans le lit, eh bien, bon courage. La dernière avancée la plus spectaculaire de la robotique, c'est un robot qui réussit l'exploit de marcher dans la neige. On est encore bien loin de la brouette thaïlandaise du Kama Sutra.
Mais c'est le moins qu'on puisse dire.
Car en fait, faire l'amour, ça nécessite une combinaison de technologies extrêmement performantes qui n'existent pas encore ou qui n'en sont qu'à leur balbutiement. Imaginez par exemple une simple caresse. Avec les technologies actuelles, elle serait au mieux rigide, au pire carrément saccadée. Quant à la texture de la peau, eh bien ce n'est pas terrible non plus. La silicone, ça accroche et ça sent le plastique. Adieu, massage sensuel. D'autant plus que la main reste un des défis les plus complexes de la robotique. Comment la rendre assez précise et surtout comment gérer la pression à exercer sur le corps de l'autre ? En l'état actuel des mains robots, un seul conseil, Didier, remballez seins, phallus et clitoris. À moins que vous ne soyez fétichiste de l'écrabouillage inopiné.
Non merci. C'est bon.
Mais faire l'amour, c'est aussi s'adapter à son partenaire, comprendre l'expression de son visage, de son corps et lui parler. Les intelligences artificielles d'aujourd'hui sont certes vaguement capables de faire la causette, mais elles ont la subtilité psychologique d'une bernique.
Mais alors tout ça concrètement, Morgane, ça donne quoi ?
Eh bien, ça donne Roxy. Roxy, c'est une sorte de monstruosité érigée comme le premier robot sexuel. À l'allure très réaliste, elle est capable d'aligner quelques mots et dispose, selon son fabricant, de 5 personnalités. Celles-ci vont de Wendy, la sauvage, à Farah, la frigide. Les vidéos de Roxy sont rares et on comprend pourquoi. Elles sont tout bonnement terrifiante. Quand Roxy parle, sa mâchoire s'ouvre et se referme de façon hachée et ses lèvres ne suivent pas ses paroles. Sa tête tourne de façon aussi naturelle que dans L'Exorciste, souvenez-vous. Et dans une de ses vidéos effroyables, on la voit à genoux mimant une fellation horriblement saccadée face à une chaise vide. Je défie tout homme sensé de s'installer sur cette chaise. Alors Roxy est certes toujours excitée et toujours prête à parler ou à jouer, c'est en tout cas ce que dit le site. Mais pour ma part, sans façon, merci, j'ai piscine.
Oh putain.
Vous connaissez les dimensions de la dame approximativement au moins
4E, 22-35.
Ah, mademoiselle est américaine.
Alors Solène Payet de Gliden, vous n'acceptez pas encore les inscriptions de robots sur votre site ?
Non, pas encore, mais ça pourrait arriver. Hein.
Et Ghislain Paribault, la réalité, vous n'avez pas l'impression qu'elle va plus loin que la fiction, même dans la pornographie ?
Ça dépend de chaque personnalité et de l'imagination de chacun.
Ouais. Et Catherine Demangeau, sexothérapeute, hein, vous prévoyez de recevoir bientôt un couple humain-robot en consultation ou pas ?
Je pense pas tout de suite, non. Il va falloir que je me prépare avant.
Et bon, écoutez, on va voir l'heure pour y répondre. Avant de se poser la question de nos éventuelles futures relations avec un robot partenaire, nous allons déjà nous intéresser à ce qui passe avec les humains, et notamment avec ceux que l'on peut rencontrer sur des sites spécialisés, des sites où les inscrits n'hésitent pas à se montrer dans des postures parfois provocantes et dénudées, à l'instar de certains artistes sur les réseaux sociaux, comme Rihanna, que l'on écoute maintenant avec Higher.
Si vous promettez aux gens de tomber amoureux sur un site internet, normalement, ils ne devraient pas vous croire. On ne peut pas tomber amoureux derrière un clavier. Nous, ce qu'on promet, c'est des rencontres. C'est ça qui fait que Médic est devenu ce qu'il est devenu. This whiskey got me feeling pretty. So pardon if I'm impolite. I just really need your ass with me. I'm sorry about the other night, and I know I could be more creative and come up with poetic lines, but I'm turned up upstairs and I love you is the only thing that's in my mind. You take me
Le Minitel est un service public. Je veux dire, aujourd'hui, il y a en Ile-de-France 2 personnes sur 3 qui sont des solitaires. Grâce au Minitel, ils vont avoir la possibilité de se rencontrer. Le Minitel est complètement, je dirais, transsocial. Si on en voit uniquement, je dirais, l'aspect très limité, l'aspect un peu, je dirais, sordide que peut avoir parfois le Minitel, c'est 3% du Minitel.
Une archive qui remonte à 1987, hein, il y a maintenant 30 ans, le Minitel, qui avait fait son apparition au début des années 80 dans les foyers, devenait le premier terminal d'accès au réseau pour les Français, un moyen de communication qui a connu un succès notamment grâce au service de Minitel Rose, c'est-à-dire les messageries, les rencontres. Depuis une quinzaine d'années, un constat identique s'impose avec Internet. Hein. Celui-ci est devenu un lieu de prédilection pour ceux qui cherchent le plaisir, solitaire ou à plusieurs, voire l'âme sœur, ou un lieu de prédilection pour les nombreuses sociétés qui essaient de profiter de cette quête en mettant en ligne des plateformes de rencontres et des images éveillant l'excitation. Une profusion qui n'est pas sans conséquence dans notre perception en 2016 de la sexualité et de notre épanouissement. Avec nous sur France Inter ce matin, Catherine Demangeau, sexothérapeute, Ghislain Paribault du groupe Marc Dorcel et Solène Payet, porte-parole de Gliden. Intéressons-nous d'abord à ces sites de rencontres à travers ce mix de reportages audiovisuels.
On est mariés depuis un certain temps. La vie de couple prend certaines fadeurs. C'est un peu se rappeler qu'on est aussi une femme.
C'est plus facile d'être infidèle avec quelqu'un de marié que quelqu'un qui n'est pas marié.
C'est vrai.
Et surtout quand on est bien dans sa vie personnelle, on n'a pas envie de la mettre en péril avec quelqu'un qui est célibataire, quelqu'un qui va peut-être vouloir plus.
Comme eux, 17% des Français reconnaissent avoir déjà été infidèles. Et certains hommes d'affaires en ont fait un business très lucratif. Le premier site de rencontre extra-conjugale est apparu il y a 4 ans. Aujourd'hui, il y en a des dizaines.
Très vite, je reçois des charmes, comprenez, des signaux envoyés par quelques garçons qui souhaitent entrer en contact. Ensuite, c'est moi et moi seule qui décide si je souhaite ou non poursuivre l'échange. Car sur ce site de rencontre amoureuse, l'homme est un objet de consommation et moi je fais mes courses dans ce vaste supermarché virtuel ouvert 24 heures sur 24. Au rayon des muscles saillants et tatoués, j'ai cliqué sur Dorian Gray. Bonne pioche, le jeune homme n'a pas triché et se révèle dans la vie aussi charmant que sur sa photo. Depuis l'adolescence, sa vie sociale et amoureuse s'est construite sur Internet. Lydia, élève seule, sa fille adolescente, Lydia recherche le bon produit. Non, pardon, l'amour.
Tinder, c'est cette application qui permet de voir les profils et les photos d'autres personnes connectées à proximité. Si la personne que vous avez choisie a elle aussi aimé votre profil en retour, l'application vous met en contact. Eh bien, Tinder va lancer prochainement une version payante. Alors, ça devrait permettre aux utilisateurs qui auront payé un abonnement mensuel de pouvoir annuler un swipe malheureux si vous avez fait glisser du mauvais côté le profil de la peut-être future femme de votre vie. Autre atout, l'appli payante permettra de rechercher des profils en dehors de sa zone géographique de chasse habituelle.
Alors, vous avez entendu parler d'Adopte un mec, de Tinder. Solène Payet, le business de la rencontre sur Internet, c'est la spécialité de Gliden, la société que vous représentez, mais sur une approche un peu particulière, puisque votre spécialité, ce sont les rencontres adultères, extra-conjugales, comme on dit. Qui fréquente votre site aujourd'hui et quelle est l'évolution depuis son lancement ?
Donc tout à fait, Gliden est un site spécialisé pour les rencontres entre personnes non célibataires. Donc des personnes qui ne sont pas célibataires dans la vie et qui veulent des relations extra-conjugales.
Et on a un portrait robot un peu de
oui,
qui s'inscrit.
Donc ce sont des gens qui sont un petit peu plus âgés que sur les sites de rencontres classiques. Donc des gens qui ont déjà une vie maritale déjà plutôt longue. Ce sont des catégories socio-professionnelles supérieures. Des gens qui habitent dans les grandes villes et qui recherchent un petit peu de piment dans leur vie de couple, qui ont envie de ressentir un peu la passion des débuts en trouvant une relation extra-conjugale.
Ça fait combien de temps que le site a été lancé ?
Le site a été lancé en décembre 2009.
Ça a été un des premiers en France sur
c'est
ce registre.
C'est le leader en France, c'est le premier en France qui a été lancé sur ce marché de la rencontre extra-conjugale.
Parce qu'on a vu d'autres sites étrangers aussi venir s'installer sur le territoire français et qui sont aussi installés ailleurs.
Qui sont arrivés sur le territoire français, mais qui ne sont pas restés, qui se sont un peu effacés. Parce que Gliden étant là en premier, on a vraiment pris nos marques et les gens se sont vraiment intéressés à Gliden en premier.
Et quel est est-ce qu'il y a une spécialité française, un portrait du French lover ou de la French lover, je ne sais pas comment on doit dire.
Le français est donc l'européen le plus infidèle, c'est le numéro un avec l'italien. Voilà, petite fierté française. Ils sont à la recherche d'une aventure extra-conjugale sécuritaire. Ils ne souhaitent pas trouver une aventure. C'est moins sécurité d'aller dans la rue ou d'aller dans les bars, etc.
Donc, la prise de risque est moindre, vous voulez dire, mais prise de risque par rapport à quoi ? Par rapport au fait d'être dévoilé éventuellement ?
Oui, voilà, si vous cherchez une aventure extra-conjugale et que vous êtes dans un bar, vous ne savez pas déjà si la personne en face va être mariée ou célibataire et comment elle va réagir face à vous qui êtes marié. Et donc sur Internet, cela permet d'avoir une sécurité, d'être sur une plateforme où on sait qui sont les personnes aussi derrière pour trouver cette aventure. On sait que les personnes sont mariées, elles ont les mêmes attentes. C'est une communauté.
Quelles sont leurs attentes, justement, généralement ?
Leurs attentes, ça dépend. Hein, chacun a des désirs différents. Donc il y a la rencontre qui va être réelle. Qui va être du sexe, hein, pour du sexe. Il y a aussi la rencontre qui va rester virtuelle. Donc on a à peu près 30% de personnes qui ne vont pas passer la frontière et qui vont rester derrière leur ordinateur. Voilà, se séduire par clavier interposé et comme ça renouer un petit peu avec le piment de la séduction.
Vous faites des études, vous interrogez de temps à autre vos abonnés. Est-ce qu'il y a d'abord une différence, par exemple, homme-femme ?
Il y a plus d'hommes que de femmes sur Glidden, mais on a une bonne, on a un bon ratio parce que les femmes, en fait, c'est un site qui est pensé au quotidien pour les femmes où les femmes s'y sentent bien. Donc, on a à peu près 60% d'hommes, 40% de femmes à l'inscription.
Rappelons que c'est gratuit pour les femmes et payant pour les hommes.
Voilà, c'est ça.
C'est quoi la gratuité pour les femmes? C'est pour faire venir les hommes?
Les femmes n'ont pas l'habitude dans la vraie vie de payer pour rencontrer des gens. Donc, on ne voyait pas l'intérêt de faire payer les femmes pour s'inscrire sur la plateforme. Alors que les hommes, que ça soit payer un verre, un bar ou alors payer un, voilà, ils ont l'habitude de mettre la main à la poche pour faire des rencontres et c'est vraiment le même système que dans une boîte de nuit classique.
Mmh. Et leurs attentes donc, ou est-ce qu'il y a des attentes spécifiques selon le sexe?
Les hommes vont être plus portés sur le sexe, forcément. Les femmes vont plus être dans la séduction, mais les attentes sont plutôt équivalentes entre les hommes et les femmes.
Et globalement, qu'est-ce qu'on peut dire sur les sites de rencontres en France? Tout à l'heure, on entendait un extrait, Marc Simoncini, le fondateur de Mythique, qu'il a revendu depuis en 2007, où il disait, il expliquait que son site ne promettait pas l'amour, mais des rencontres. Est-ce que c'est un nouveau rapport à l'autre qui s'établit? Catherine Demangeau, vous qui êtes sexothérapeute, est-ce que vous avez l'impression que c'est un nouveau rapport qui s'instaure?
Il y a des différences, effectivement, mais c'est dans l'usage que l'on fait de ces outils, finalement. Parce qu'on est passé d'un usage ponctuel de l'Internet et des sites, notamment les applis de rencontres, c'était les balbutiements dans les années 90, à un usage aujourd'hui quotidien, un usage avec les risques que cela comporte, c'est-à-dire l'excès, la dépendance. Quand on est dans la perte de liberté de s'abstenir, c'est là que ça devient compliqué à gérer.
Vous voulez dire que le fait que ces sites de rencontres soient là, qu'on sache quand on s'inscrit qu'il y a toujours des rencontres possibles,
exactement,
fait qu'à un moment donné, on ne se contrôle plus, quoi?
Non, on se contrôle plus parce qu'il y a des facteurs croisés. Il y a à la fois l'usage de l'outil technologique en lui-même, donc le smartphone, la tablette, l'ordinateur, et puis l'usage que l'on fait de ces sites de rencontres dans lesquels on est vite absorbé. Finalement, on s'en rend pas tout à fait bien compte parce que on y va une fois par curiosité, on y va deux fois, trois fois, et puis on y va très régulièrement. Et là, tout à coup, on est rentré dans un cercle qui fait que, on a du mal à s'abstenir. Voilà. C'est devenu une habitude et effectivement, les habitudes, depuis le temps que maintenant on utilise ces outils-là, elles se sont ancrées en nous et les images surtout. Internet, c'est le monde de l'image, c'est un catalogue géant, on y trouve de tout, en matière de sexualité notamment, et les sites de rencontres sont un canal formidable, les possibilités sont exponentielles.
Solène Payet, si vous voulez réagir à ce qui est dit, mais c'est vrai que la question qui se pose aujourd'hui quand même, c'est qu'en effet, il y a cette notion un peu de catalogue. Alors première question, c'est déjà les gens qui s'inscrivent chez vous. Est-ce qu'il y a, combien de temps reste-t-ils généralement? Est-ce que c'est pour un mois, six mois, un an, tout le temps?
Les infidèles sont plutôt fidèles à Glidden, c'est ça qui est assez marrant. C'est qu'ils vont s'inscrire pour une période de temps, ils vont trouver une personne qui leur correspond pour le temps donné et ils vont revenir. Ça se passe souvent comme ça. Sur Glidden, c'est un petit peu différent que du catalogue qu'il peut y avoir sur Apple ou Tinder, parce qu'il y a ce souci de discrétion. On ne va pas afficher son visage directement sur la plateforme.
Alors, c'est sur quels critères se base? Il y a des algorithmes où vous venez proposer éventuellement les rencontres?
On a un système qui est par géolocalisation, qui n'est pas aussi précis qu'une géolocalisation à la Tinder ou à la Apple, parce qu'il faut quand même un souci de discrétion. Hein. Si vous êtes dans un petit village et que la seule personne autour de vous, c'est votre femme, vous êtes un petit peu mal.
Oui, c'est des risques.
Donc forcément, c'est géolocalisation, mais on conseille à nos membres de s'identifier dans une grande ville, proche, pas forcément de leur village. Et ils ont aussi un système d'album photo qui est privé, donc ils n'ont pas besoin de mettre une photo en public, donc on ne va pas voir leur visage. Et seulement une fois qu'ils sont en confiance, qu'ils ont commencé la conversation avec quelqu'un, ils vont pouvoir ouvrir cet album privé et ainsi se dévoiler plus doucement. Donc je pense qu'il y a encore une différence entre un site, une appli où tout va très vite, où on swipe droite, gauche, où contrairement à Glidden, on va plutôt apprendre à connaître la personne, se sentir bien avant de se dévoiler et de dire qui on est vraiment physiquement.
Ghislain Faribault, vous qui travaillez avec le groupe Marc Dorcel, les sites de rencontres, ce sont des lieux de casting pour vos productions?
Pas du tout, on fait jamais de casting, pour la simple et bonne raison qu'on force jamais les gens à venir faire ce genre de film. Il faut que ce soit un choix personnel.
Oui, mais est-ce que vous allez justement prospecter un peu en regardant sur ces sites ?
Non, on va jamais chercher les gens. Ce sont les gens qui viennent à nous. Et ensuite, on discute avec ces personnes pour connaître leur motivation.
J'allume mon ordinateur. Je me connecte.
Bienvenue.
Ma respiration se bloque jusqu'à ce que j'entende ces quatre petits mots.
Vous avez un message.
Un message peut-être d'un partenaire recruté sur un site. Si une partie des abonnés espère la multiplication des expériences, les nouvelles technologies sont également l'occasion de pratiques plus solitaires. Ou Madame rêve d'une fusée qui l'épingle au ciel. Alain Bachung sur France Inter.
Madame rêve d'atomiseur. Et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifices, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel. Vague perpétuelle, sismique et sensuelle. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin.
On est loin.
Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Au ciel. Au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin,
on est loin.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain, sur France Inter.
Dans la vie, il n'y a que quelques trucs auxquels je tiens vraiment. Mon corps, mon appart, ma caisse, ma famille, mon église, mes potes, mes nanas et mon porno. Mon corps, mon appart, ma caisse, ma famille, mon église, mes potes, mes nanas, mon porno. Corps, appart, caisse, famille, église, potes, nanas.
Et mon porno, donc. Ben oui, voilà, un extrait audio de la bande-annonce de Dungeon, film de Joseph Gordon-Levitt, où il joue le rôle d'un séducteur,
mais accro au porno, tombant amoureux d'une fan de comédie romantique en quête du prince charmant, joué par Scarlett Johansson. Un long métrage, et ce n'est pas le premier, où l'addiction à la pornographie occupe un rôle central. La pornographie, un genre qui n'est pas nouveau, mais qui a explosé avec Internet, avec des conséquences sur la vie sexuelle, les pratiques de beaucoup de personnes. Pour illustrer son importance, un chiffre, 79 milliards, c'est le nombre de vidéos visionnées en 2014 sur la plateforme Pornhub, un site international qui compte 60 millions de visites quotidiennes et appartient avec d'autres sites comme YouPorn à un groupe MindGeek basé au Luxembourg. Pour parler de ce rapport entre nouvelles technologies et sexualité, sont avec nous Solène Payet du site Gliden, Catherine Demangeau qui est sexothérapeute et Ghislain Faribault qui travaille pour le groupe Marc Dorcel. Aujourd'hui, Ghislain, on a une idée d'ailleurs de qui regarde le porno, comment et pourquoi.
Alors, sur nos sites internet, on est uniquement dans l'anonymat. Donc je ne sais pas qui regarde et de ce qu'on peut constater quand on fait des études ou quand on rencontre les gens, c'est que finalement il n'y a pas de portrait type, c'est ouvert à toute une génération, aussi bien la nouvelle génération que des personnes un peu plus âgées qui ont, eux, toujours eu accès à du contenu adulte.
Est-ce que vous avez l'impression qu'avec Internet, ça a été une démocratisation de la pornographie, si on peut se permettre de dire ça, mais une démocratisation pas vraiment contrôlée?
Alors, pas vraiment contrôler, c'est un vrai problème, on est bien d'accord. C'est que finalement, la consommation a explosé, puisque l'accès au contenu est devenu facile, trop facile, et c'est bien un problème. Nous, on milite pour que le contenu soit bien réservé aux personnes majeures et exclusivement. Et l'autre problème, c'est que comme il n'y a pas d'éducation sexuelle, vous avez toute une génération qui n'apprennent pas la sexualité ni par l'école, ni par la famille, et l'apprennent par les films pornographiques. Et non pas l'explication de texte qui va avec les images. Un film pornographique est du cinéma, et vous n'apprenez pas à conduire en regardant Fast and Furious, et on n'apprend pas à faire du sexe en regardant un film X.
Le parallèle est assez osé, mais est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui une surenchère dans les productions avec des pratiques minoritaires qui sont maintenant perçues presque comme des pratiques dominantes?
Vous avez toujours eu, les niches ont toujours existé dans l'industrie adulte. Après, elles sont peut-être trop facilement accessibles pour un certain public.
Mais vous comprenez quand même qu'il y a un problème sur l'image que ces films véhiculent de la sexualité?
Alors, nous, on ne se considère pas... Enfin, voilà, après, dans Film X, vous pouvez tout mettre et rien dire. Les films de Marc Dorcel sont un certain type de contenu qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais en tout cas, ce sont les films que nous aimons faire. Donc, nous sommes totalement dans des, entre guillemets, dans des règles tout à fait propres.
Catherine Demangeau, vous qui êtes sexothérapeute, est-ce qu'il y a des conséquences de cette profusion aujourd'hui de la pornographie sur la sexualité des individus?
Oui, alors c'est bien sûr, il y a un impact culturel, notamment par le biais des images dont je parlais tout à l'heure. Toute cette surenchère d'images, elle modèle la représentation que nous faisons de ce que peut être, par exemple, la sexualité du plus grand nombre, c'est ce que vous avez dit. On voit des pratiques sexuelles qui autrefois étaient marginales se banaliser, du coup, on pense que c'est ce qui est pratiqué par tout le monde.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part un culte de la performance aussi, parce qu'il y a aussi ça maintenant?
Tout à fait, un culte de la performance et de la perfection, et ça on le voit notamment dans la représentation que nous faisons de notre corps à travers tous ces corps parfaits que nous voyons sur tous ces supports. Au niveau de l'esthétique corporelle, c'est vraiment flagrant. D'ailleurs, il y a de plus en plus de femmes et d'hommes qui ont recours aujourd'hui à la chirurgie esthétique des parties génitales, par exemple, parce que forcément, cette surexposition du sexe, qui n'était pas aussi visible de manière aussi flagrante par le passé, fait que aujourd'hui, ça induit du désir chez les gens. On veut un corps parfait, on veut un sexe parfait, on veut plaire à tout prix.
Donc il y a des standards et des standards qui s'établissent. Une autre question quand même qui se pose, Catherine Mongeau, c'est l'addiction dans tout ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une addiction à la pornographie?
Tout à fait. Alors évidemment, il ne faut pas généraliser. Chaque fois, moi je m'occupe des couples, chaque fois qu'un partenaire du couple souhaite utiliser de la pornographie, il ne s'agit pas nécessairement de dépendance et de compulsion sexuelle, mais évidemment c'est surtout à travers une consommation excessive qu'il y a des distorsions de la réalité qui se produisent et que le couple risque de souffrir. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on n'arrive plus à s'abstenir de consommer de la pornographie, ou qu'on ne peut plus s'abstenir d'avoir certaines pratiques sexuelles, on ne peut plus avoir de plaisir en dehors de la pornographie ou en dehors de certaines pratiques sexuelles qu'on a l'habitude de regarder dans les films pornographiques, là, ça va créer un gap entre les membres du couple et beaucoup d'incompréhension.
Oui, en tout cas, Ghislain Faribault, vous vouliez réagir, je voyais que vous aviez un peu les yeux au ciel.
Non, j'ai toujours un peu de mal parfois quand on essaye d'enfermer et de définir ce qu'est la sexualité. Je pense que la sexualité, elle est multiple, il n'y en a pas forcément une bonne ou une mauvaise, elle correspond à ce que veulent chaque personne. Et dans un couple, la sexualité, les besoins sexuels ne sont pas forcément les mêmes pour l'homme ou pour la femme. Et donc du coup, bah, il faut aussi laisser un peu cette liberté et cette expression.
Alors on l'a compris, hein, avec le Minitel et ensuite avec Internet, le sexe peut être moteur dans la diffusion des nouvelles technologies. Cela pourrait être le cas avec la réalité virtuelle, la réalité augmentée. De nombreux producteurs pornographiques s'y essaient depuis l'an dernier. YouTube avait même fait tester les premiers films en équipant des cobayes de lunettes. Un reportage avait suivi leur réaction.
Oh, Jesus Christ. No.
Fucking scaring me.
No, get that out of my face.
Oh, I like being a guy a lot better.
Je préfère largement être le mec, hein, dit cette testeuse. C'est assez surprenant d'ailleurs de voir que les réactions négatives viennent plutôt des hommes. Et ça se confirme une fois le casque enlevé. C'était vachement plus bizarre que ce que j'espérais.
Je peux comprendre que ça plaise.
J'ai très peur que ça élimine carrément le besoin d'interagir avec des humains.
Il y a des gens qui ne vont jamais enlever ce truc.
Ghislain Faribault, la réalité virtuelle, c'est le nouvel Eldorado du porno ?
Je sais pas, c'est un Eldorado. Pour le moment, il n'y a pas encore de marché puisqu'il n'y a pas très peu de casques, etc. C'est pas l'Eldorado qui nous intéresse, c'est plutôt les expériences que vous pouvez faire vivre avec ce principe de l'immersion totale. Mmh. Et donc, au lieu de regarder juste un film, vous êtes dans le film et les effets sont assez dingues.
Et donc vous êtes lancé, le groupe Marc Dancel s'est lancé lui-même dans ce type de production.
Oui, on a tourné les premiers contenus en 360 degrés et en 3D, parce qu'après en réalité virtuelle on peut tout dire et rien dire, en images réelles, et donc du coup vous êtes dans une immersion la plus totale pour vivre une expérience assez sympathique.
Et est-ce qu'on n'enferme pas progressivement avec ces images un peu plus les individus dans un isolement ?
Moi, je pense pas du tout. Je pense qu'en plus, pour le moment, ça ne reste que marginal et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde. Encore une fois, il faut que chacun puisse vivre son plaisir. Il y en a qui n'aiment pas forcément les films X, qui vont aller préférer aller dans des clubs. Il y en a qui vont préférer aller sur des sites de rencontres. Voilà. Les sexualités, elles sont multiples. Et effectivement, les nouvelles technologies vous permettent de découvrir de nouvelles choses et de savoir un peu plus ce que vous avez envie d'essayer. Et finalement, vous pouvez pendant quelques semaines adorer la réalité virtuelle et repasser après sur un site internet classique ou après aller dans des clubs. Enfin voilà, il n'y a pas de règle absolue.
Solène Payet à Glidden, le site de rencontres extra-conjugales. Vos prochaines rencontres, elles peuvent se faire aussi dans le virtuel avec des lunettes pour imaginer le partenaire idéal.
C'est pas à l'ordre du jour pour le moment, mais on pourrait imaginer peut-être des choses comme ça, avec peut-être masqué, parce qu'il faudrait qu'il reste quand même discret. Mais pour l'instant, c'est pas l'heure du jour. On est sur l'application mobile parce que la discrétion se fait surtout sur le mobile actuellement.
Ouais.
Donc après, pourquoi pas envisager du 360 degrés et une recherche comme ça dans la rue des infidèles.
Et Catherine Demangeau, est-ce que la frontière entre le réel et le virtuel n'est pas un autre risque aujourd'hui ?
C'est sûr qu'aujourd'hui, grâce à la précision de plus en plus fine de l'imagerie médicale notamment, on comprend de mieux en mieux les mécanismes cérébraux et ce qui se passe en nous. Et chez l'humain notamment, l'imbrication du réel et de l'imaginaire, du virtuel, va au-delà du concevable. On pense naïvement que le virtuel est sans incidence, mais quand on voit comment ça impacte le cerveau, moi je trouve que ça questionne. Alors évidemment, c'est toujours la même histoire. En faire un usage ponctuel et en faire un usage beaucoup plus régulier n'a pas le même impact sur l'organisme, c'est évident.
Alors, autre utilisation avec les nouvelles technologies, hein, les objets connectés. Avec un exemple, la société Bisensory, une start-up qui s'est distinguée il y a quelques mois en étant sélectionnée pour participer au grand show du high-tech à Las Vegas et représenter ni plus ni moins que le savoir-faire français. On écoute sa dirigeante et fondatrice, Christelle Lecoq.
Bisensory, en fait, c'est la première application de lecture de contenu connecté en fait à un sextoy, le Little Bird. Et l'idée, c'est de transformer les émotions que l'on peut ressentir quand on lit les contenus et de transformer en sensations, voilà, et de redonner une dimension physique à ces contenus qui sont dématérialisés. Ça passe par des vibrations du Little Bird, hein, donc il y a un sextoy de type œuf vibrant. Donc l'idée, c'est que quand un auteur érotique écrit un texte sur certains passages, il l'écrit pour donner des sensations ou procurer du plaisir. Hein. Donc l'idée, c'est qu'on leur fournit une plateforme qui leur permet d'ajouter en fait ces vibrations qui vont venir augmenter en fait ce qui est ressenti par la lectrice au moment où elle découvre l'histoire. Voilà, avec des auteurs qui ont une palette de 10 vibrations différentes et des intensités différentes, et qu'ils vont moduler en fonction de l'intensité érotique qu'ils ont mis dans leurs mots. On aura aussi dans l'application des contenus audio, donc des audiobooks, mais c'est vrai que j'ai toujours considéré que le premier organe sexuel, hein, c'est le cerveau, et qu'il y a un vrai intérêt de la littérature érotique par rapport, par exemple, aux images pornographiques. Ma prochaine étape, ce sera travailler avec des connexions, avec soit des casques de réalité augmentée, donc là on est plus dans la vidéo, soit de travailler avec aussi du vêtement connecté. Donc on a des travaux de recherche avec un laboratoire qui est en Catalogne, spécialisé dans le smart textile. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir synchroniser du cinéma, de la vidéo, de la musique à des sensations qui seraient transmises par le vêtement. Et à partir de ça, on peut imaginer de la lecture audio-sensorielle pour le grand public, pour les personnes aveugles, du cinéma dynamique, enfin plein d'autres types d'expériences, voilà, qui viendront redonner une dimension physique à ces contenus dématérialisés qu'on consomme de plus en plus et qui viendront proposer de nouvelles expériences de lecture enrichies de ces sensations.
Alors, connexion avec des vêtements, hein, casque de réalité augmentée, cinéma dynamique, on a l'impression que le champ des possibles est ouvert en matière de sexualité. Quelle est votre vision de l'avenir, par exemple, dans le groupe Marc Dorcel ?
Bah déjà, faut pas avoir peur des nouvelles technologies. J'ai toujours peur des réactions, oh là là, attention, où ça va nous emmener, l'addiction, etc. Faut voir aussi tout ce que la réalité virtuelle va apporter, que ce soit en médecine, que ce soit pour des personnes à mobilité réduite, etc. Enfin, l'immersion va apporter énormément de choses. Nous, chez Marc Dorcel, les innovations nous intéressent pour savoir qu'est-ce que ça peut apporter de nouveau aux consommateurs. Là, effectivement, la réalité virtuelle, vous avez l'immersion. Quand on parle des smart textiles, c'est intéressant de les coupler, effectivement, avec des casques, puisqu'on trompe deux de vos sens, qui sont l'ouïe et la vue. Si vous rajoutez le toucher, vous avez une immersion qui est assez dingue. Voilà, on travaille en ce moment sur des hologrammes, essayer de voir comment finalement on peut travailler cette nouvelle technologie. La réalité virtuelle, on vous emmène vivre une expérience. L'hologramme, c'est l'inverse, on vous emmène l'expérience dans votre univers.
Et on parle d'hologrammes aujourd'hui qui pourraient transmettre le toucher également.
Oui, après, je pense que tout ça va s'accélérer. Il y a encore 5 ans, je pense que personne n'aurait misé un copec sur la réalité virtuelle. Donc voilà, les nouvelles technologies, il faut pas en avoir peur, faut les essayer, faut connaître ses limites, les contraintes. Par exemple, nous, on fait très attention à ce que le confort visuel quand vous regardez une expérience en réalité virtuelle soit au maximal. C'est-à-dire que les expériences sont beaucoup plus courtes que sur un film classique. On est dans une expérience qui a une durée beaucoup plus réaliste, puisqu'effectivement, porter un casque plus de 8 minutes, c'est compliqué et on le déconseille.
Solène Payet, chez Glidden, c'est votre vision de l'évolution du site avec ces nouvelles technologies? Il y a des choses encore qui peuvent être faites?
Ouais, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu difficile d'envisager la réalité virtuelle à notre niveau. Nous, on est vraiment plus concentrés sur tout ce qui est mobile et vraiment mise en relation des gens infidèles à proximité en fonction de leurs critères. Smart, les vêtements intelligents, etc. Je vois pas trop à notre niveau comment on pourrait l'adapter à une application de rencontre infidèle.
Et alors, pour revenir à quelque chose de plus historique, quand on accuse le site Glidden d'inciter à la débauche et donc à l'adultère, vous avez été attaqué d'ailleurs l'an dernier, une plainte a été déposée contre vous par une association.
Oui, une association catholique, tout à fait. C'est encore en cours, on n'a pas encore eu le jugement. Donc non, de toute façon, quelqu'un qui est infidèle et qui a envie d'être infidèle le sera. Donc là,
mais est-ce que vous ne facilitez pas le travail, si je me permettais?
On le facilite dans le sens où on va les aider à mieux le faire. Ils le font dans tous les cas, mais là, au mieux d'aller tromper peut-être avec une amie, parce qu'on a fait une étude récemment avec IFOP qui nous montre que 10% des infidèles l'ont été avec une amie proche de leur compagne. Donc vous voyez, il y a encore des choses à faire. Donc au lieu de tromper quelqu'un proche du cercle amical ou familial, ils le feront peut-être avec un inconnu et se feront pas prendre. Donc ils auront leur jardin secret sans avoir les risques d'être pris la main dans le sac.
Vous êtes dans la préservation des amitiés un peu, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
C'est ça, on est sur la paix des ménages.
Alors Catherine de Mangeot, est-ce que vous avez l'impression que toutes ces nouvelles technologies aujourd'hui ont un vrai impact justement sur les normes de la sexualité?
Alors, dans le monde de grande liberté qui est le nôtre, on a l'habitude de dire qu'une sexualité normale n'existe pas. C'est vrai que moi j'ai toujours un problème avec la norme, parce qu'effectivement il n'existe pas une seule manière de vivre sa sexualité, il en existe de nombreuses, et toutes les intimités sont différentes. Moi, je constate, alors moi, en l'occurrence en cabinet, je vois effectivement les choses changer, évoluer, mais je ne peux pas en faire des généralités parce que le panel n'est pas suffisamment représentatif. On en saura plus, je pense, lorsqu'on aura les chiffres de la prochaine grande étude sur la sexualité des Français. La dernière en date, elle date de 2007, elle a été pilotée par l'INSERM et elle a montré déjà, par rapport à celle de 1992, qui avait été faite avant, qu'il y avait des normes des normes statistiques, là on parle de normes statistiques, qui s'étaient déplacées, notamment en ce qui concerne les relations orales, de sexualité orale. Alors est-ce que c'est un progrès ou pas, j'en sais rien. En tout cas, là on n'est pas dans le jugement, on est juste dans des chiffres et dans des statistiques, et c'est grâce à ça aussi que l'on peut se faire une idée réaliste et comprendre si ces évolutions, elles sont significatives ou pas.
Est-ce que vous avez par ailleurs l'impression quand même que on a aujourd'hui un avenir qui va justement être profondément modifié dans les relations, en tout cas les relations futures vont pas bouger avec quand même ces nouvelles technologies?
Ben, moi ce qui m'inquiète, alors c'est vrai que je suis peut-être un peu alarmiste ou un peu pessimiste, mais je pense que ce qui est vital pour le bien de l'humanité, c'est pas de se coller des œillères ou de rester le nez collé sur son écran en permanence, c'est de favoriser les relations, les vraies relations. Évidemment, moi ce que je constate, c'est que l'essor de ces nouvelles technologies, il s'accompagne d'une augmentation de l'isolement. Vous le disiez tout à l'heure, il y a des angoisses, il y a de la solitude, il y a des dépression. Alors, il n'est pas question d'arrêter le progrès technologique, mais il faut être vigilant à ne pas en devenir esclave. Et puis moi, je dis toujours que tant qu'on n'a pas de recul, c'est bien d'appliquer le principe
de précaution.
De précaution, exactement. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut diversifier ses activités. C'est-à-dire qu'on peut à la fois être geek, on peut passer du temps sur ses plateformes, sur ses réseaux, sur ces choses-là, et diversifier ses activités, rencontrer des gens dans la vraie vie, nouer des relations amicales, affectives, prendre le temps de faire des choses simples. Ça, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de bonheur, beaucoup de bien-être.
Et on pourra dire en effet qu'il n'y a rien de mieux en effet que des vraies rencontres réelles et pas des rencontres virtuelles.
Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio, une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux.
Malgré sa courte histoire, l'ère numérique regorge d'objets qui ont connu un lancement, un développement, une explosion et parfois, un abandon. Aujourd'hui, nous revenons à travers les archives sur un objet dont on parle depuis le début de l'émission, dont on dit qu'il a initié les Français, peut-être à la sexualité, mais surtout aux nouvelles technologies. Il s'agit du Minitel.
L'ordinateur chez soi, plus exactement la télématique au foyer, ce n'est plus de la science-fiction.
On va devenir nous-mêmes un peu des robots, quoi. C'est marrant.
Oui, si on veut.
Le Minitel, celui que vous aurez chez vous du moins dans un premier temps, se présente sous cette forme cubique, très sobre, de 25 cm sur 35 environ. Cette grosse boîte s'ouvre sur le devant pour faire apparaître un clavier. Tout cet ensemble, couplé avec le téléphone, permet d'interroger une banque de données riche de tous les numéros d'Ille-et-Vilaine.
Et j'ai branché mon Minitel.
Le ministre de l'Intérieur s'attaque au Minitel rose au nom de la protection des mineurs et dénonce l'apologie du sexe. Monsieur Pasqua craint le développement du proxénétisme via les petits tabulateurs.
3615 Ulla, le diable au corps.
Spontanément, on s'en sert une ou deux fois par semaine. Très souvent, en famille.
Le téléphone rose et les messageries coquines sur Minitel sont deux façons modernes d'assouvir bien des fantasmes.
Voilà, il suffit de se mettre au clavier.
Toutes les 74 secondes, on fait teinter le tiroir caisse des télécoms.
Voir toujours le bon côté de la chose.
Et... Rien ne peut cependant pour l'instant empêcher un enfant d'accéder aux messageries érotiques.
La passion, l'aventure, le frisson.
Le cinéma sur votre Minitel.
Les nouveaux films.
Les programmes des salles de Paris, de la région parisienne et de 47 villes de France.
3615, code RF, le choix au bout des doigts.
Le Minitel, dernier jour, le petit écran va définitivement s'éteindre ce soir. C'est la fin d'une époque, les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson. L'objet, c'est vrai, n'a plus beaucoup d'utilité depuis des années, mais cette fois, c'est vraiment fini.
Le Minitel est donc désormais un simple objet de musée.
Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
Commercialisé à partir de 1982, eh bien oui, le Minitel a cessé d'émettre en 2012, ce qui est une éternité dans l'ère numérique. Merci à nos invités, Solène Payet, porte-parole de Gliden, donc site de rencontre extra-conjugale, Catherine Demangeau, sexothérapeute, que nous avions en ligne en direct d'Ardèche, on peut le dire, et Ghislain Faribault, vice-président de la division média de la société Marc Dorcel, producteur de films pornographiques. Merci également à Morgane Tual, journaliste de la rubrique Pixel du Monde, partenaire de l'émission, et Cap Digital, le pôle compétitivité de la transformation numérique, dont les équipes ont collaboré à la préparation du magazine. On se quitte sur la bande originale de Sex in the City, la série américaine qui évoquait la vie, et notamment sexuelle, de femmes libérées à la fin des années 90. C'est fini pour aujourd'hui, mais pas pour demain, ou du moins c'est fini jusqu'à samedi prochain, jour où on se retrouvera pour parler de voitures intelligentes, de la voiture connectée à la voiture autonome. D'ici là, vous pouvez nous réécouter sur franceinter.fr. L'émission a été réalisée par Hélène Biziot avec l'aide aujourd'hui à la technique de Serge Viguier, préparée par Léa Dupuy-Yenquin et Béatrix Moreau, et mis en musique par Thierry Dupin. Bon week-end à tous, pensez à vous déconnecter un peu, mais restez branchés sur France Inter.